cours de théologie naturelle par le Père Marie-Dominique Philippe, 21 mars 84, Rimont.
Pourriez-vous expliquer comment, dans cet article 6, saint Thomas peut arriver à dire à la fois que la procession des personnes divines sont les rationes de la production des créatures et qu'elles sont cause de la création? Rationes, n'est-ce pas au niveau critique, cause au niveau de l'essai. Très bien. Il semble que saint Thomas situe les appropriations à un niveau d'intelligibilité, reducitur, niveau critique, et qu'elles se fondent justement sur les rationes, elles-mêmes au niveau de l'intelligibilité. Mais les appropriations n'ont-elles pas aussi un fondement dans l'être? Très juste. Ne serait-ce pas là la précision qu'apporte le mot cause? Mais comment le comprendre? C'est tout à fait juste, c'est tout à fait ça. Il y a le fondement réel, et puis en même temps l'explicitation selon l'intelligence. Mais comment le comprendre? Les appropriations sont-elles plus qu'un rapport d'intelligibilité, une convenance d'intelligibilité? Bon, je vous avais signalé, c'est très bien d'avoir relevé la chose, parce que c'est évidemment quelque chose de très important et qui complète, je crois, ce que dit saint Thomas à propos des appropriations dans le mystère de la Très-Sainte Trinité. Je n'ai pas eu le temps de relire ce qu'il disait dans le traité de la Trinité. Faites-le, parce que c'est intéressant de pouvoir comparer les deux. Il me semble qu'ici, il y a quelque chose de plus que saint Thomas nous donne, c'est le point de vue de la création. Or, la création est vraiment le fondement ontologique des appropriations. Et tandis que quand je regarde uniquement le traité de la Très-Sainte Trinité, je ne vois que les rationes, ce qui est normal. Oui. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a rationes et cause ici. Alors, c'est très vrai que rationes, je dirais un niveau critique, c'est-à-dire explicité au niveau critique, parce que ça touche le point de vue de l'intelligibilité. C'est le problème de l'intelligibilité. Donc c'est le problème de l'intelligence qui explicite et qui peut expliciter certaines rationes. Le problème cause est nécessairement au niveau de l'essai. Donc, nous avons vu, et c'est ça la très grosse difficulté, j'avoue, hein, nous sommes devant un mystère. Bon, on essaie de saisir quelque chose de ce mystère pour répondre à ce que les pères de l'Église ont dit. Autrement dit, je crois, et c'est ça le problème de l'appropriation, c'est que le problème de l'appropriation, c'est répondre, expliquer le dire des mystiques et des pères de l'Église. Tous les mystiques voient des appropriations de la Très-Sainte Trinité par rapport aux différents aspects de la création et surtout par rapport à l'homme, par rapport à l'image de l'homme. Lisez Sainte Catherine de Sienne, c'est net. Lisez saint Jean de la Croix. Ben, on voit, ça se dit, la Très-Sainte Trinité, elle est présente partout. Forcément, puisque Dieu est présent partout comme créateur. Donc elle est présente partout. Et on explicite, alors, c'est l'intelligence. L'intelligence explicite des rapports, des relations. Là, vous avez les rationes. Il y a le fondement ontologique qui est au niveau de l'essai. Alors, on va essayer d'expliquer ça. Et on ne l'explique pas, on essaie de montrer qu'il n'y a pas de contradiction. Vous voyez, ce serait un peu analogue à ce texte fameux du père Maximilien Kolb à propos de « Je suis l'Immaculée Conception ». L'Immaculée Conception, vous savez bien dans ce qu'il dit, il voit le mystère de la conception éternelle de l'Esprit-Saint. Pour moi, c'est une intuition mystique. Le théologien de théologie scientifique dit, je ne peux pas dire ça au niveau proprement théologie scientifique, c'est impossible. Mais je peux essayer de comprendre ce qu'il y a de juste dans cette intuition mystique. Les théologiens sont serviteurs des mystiques, hein, pour essayer de faire que le langage mystique soit dit d'une manière plus intelligible. Le mystique, lui, il vit de l'amour. Or, au niveau de l'amour, nous allons plus loin que le niveau de l'intelligence. C'est toujours ces deux choses-là qu'il faut saisir. Au niveau de l'amour, nous avons un contact plus direct avec Dieu que du côté de l'intelligence. Notre cœur est plus proche de Dieu que notre intelligence, si vous voulez. Et nous savons bien. La charité nous permet d'aller au-delà de la foi. Parce que par l'amour, on est plus immédiatement en contact avec Dieu. Les mystiques vivants de l'amour essaient d'exprimer cette présence de la très sainte Trinité en nous. Et essaient d'exprimer cette action de la très sainte Trinité en nous. Comment nous entrons dans le mystère des relations divines. Les mystiques expriment cela et le vivent. Le théologien de théologie scientifique, lui, regarde le point de vue de l'intelligence. Alors, comme il regarde le point de vue de l'intelligence, forcément, il est en face d'un mystère qu'il dépasse. Mais si ce mystère est vraiment sous la conduite de l'Esprit-Saint, l'expérience du mystique peut toujours être traduite dans des termes de théologie scientifique. Alors, vous voyez, je veux mettre ici, on touche quelque chose de très important au point de vue, si vous voulez, méthode de théologie. Tout repose sur ce que saint Thomas nous dit dans la question sur la bonté entre les relations entre ens et bonum. Saint Thomas nous montre que l'être est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Tout ce que je connais, je le connais per modo mendis, par le mode de l'être. Et saint Thomas nous montre que le bien est premier sur l'ordre de causalité. Là, je touche la finalité, la fin. Donc le bien est premier dans l'ordre de la causalité, c'est la fin. Et l'être est premier dans l'ordre de l'intelligibilité. Et les deux ordres qui se tiennent, l'ordre être, bonus. Bon, la théologie scientifique, elle se situe ici. Dans l'ordre d'intelligibilité. La théologie mystique, elle se situe dans l'ordre de la finalité. Saint Thomas, en établissant l'ordre entre ens et bonum, établit nécessairement, fondamentalement, l'ordre entre la théologie scientifique et la théologie mystique. Après, il faudra ordonner, mais il nous montre que, de fait, il y a un domaine qui échappe au domaine de la pure intelligibilité. Autrement, la causalité, le bien ne serait pas premier. S'il est premier, il a quelque chose d'unique que l'intelligibilité ne peut pas exprimer. Mais au fond, c'est ce que Pascal dit, le cœur a des raisons que la raison ne peut pas expliquer. Que l'amour, qui est du côté de la causalité finale, l'amour ne peut pas être entièrement intelligible. Il y a dans l'amour toujours quelque chose qui dépasse l'intelligibilité. Autrement, ce n'est plus l'amour. L'amour est mesuré par l'amour et l'amour n'est pas mesuré par l'intelligibilité. Mesurer l'amour par la connaissance, ce serait tuer l'amour. L'amour ne se mesure que par l'amour. Donc, c'est ici qu'il faut le comprendre. C'est capital, ça. Et alors, c'est pour ça que les thomistes durs, à la manière dont parle Maritain, les thomistes durs veulent tout ramener à la théologie scientifique. Et je crois que ça, c'est tuer saint Thomas. Il y a dans saint Thomas l'ouverture à la théologie mystique. Et c'est ça qu'on doit montrer aux orthodoxes. Parce qu'eux sont plongés dans la théologie mystique. Ils ont développé uniquement la théologie mystique. Ils n'ont pas la théologie scientifique. Ils n'ont pas cette réflexion. Ils sont dans l'ordre du bonheur. Alors, dans l'ordre pratique, c'est tout à fait juste. Mais dans l'ordre de la réflexion scientifique, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Le point de vue de la distinction entre les deux. Mais il ne faut pas que les latins thomistes se remettent dans une théologie scientifique en disant « la théologie mystique n'existe pas ». Alors à ce moment-là, c'est tuer saint Thomas, vous voyez ? C'est tuer le saint. Et uniquement regarder l'œuvre du théologien scientifique. Saint Thomas n'a pas fait de théologie mystique, c'est très vrai. Il a fait une théologie scientifique. Mais son œuvre de théologie scientifique demeure ouverte à une théologie mystique. Et c'est parce que c'est l'amour que le symbole devient si important dans la théologie mystique. Parce que l'amour, puisqu'il dépasse les rationes, puisqu'il dépasse la ratio entis, ne peut que être suggéré par un langage symbolique. Le symbole dit plus ce qu'est l'amour que nos rationes scientifiques. Si pure et si limpide qu'elle soit, il y a quelque chose de plus. Et ça, c'est capital de le comprendre. Si on ne comprend pas ça, on dira, moi je lis Saint Thomas, je ne comprends rien à Saint Jean de la Croix. C'est triste si Saint Thomas vous empêche de comprendre Saint Jean de la Croix. C'est triste si Saint Thomas vous empêche de comprendre Saint Augustin. Vous empêche de, au contraire, ça devrait donner une intelligibilité beaucoup plus profonde. Puisque si on va plus loin dans l'ordre de l'intelligibilité, on est plus ouvert du côté de l'amour. Bon. Alors, je vais faire la même chose, vous allez voir. Création. La création. Regarde le panier blessé. Au point de vue de la Trinité, fécondité. Fécondité, la même. Il y a une analogie qu'on peut établir, hein. Ça c'est sûr. La création, je l'atteins par le point de vue de l'essai. La Trinité, je l'atteins par la fécondité de l'amour. C'est deux aspects tout à fait différents. Bon, alors. Du côté de la création, on dira toujours Dieu est un comme créateur. C'est laisser participer. Et laisser participer est un. Du moins, il relève de l'unité de Dieu. Ipsum esse subsistant. C'est la simplicité de Dieu. La simplicité de Dieu, ipsum esse subsistant. Et qui a comme effet propre laisser participer. C'est direct, hein? Ça ne peut pas être autrement. Alors, cependant, le Dieu créateur est en même temps trine. Donc, comme le mystère de la très sainte Trinité, c'est Dieu dans son unité. Si Dieu crée, nécessairement, c'est le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans leur unité. Ce n'est pas deux choses séparées, c'est une distinction que nous faisons, nous. Mais dans la réalité, c'est le Dieu trine qui crée. C'est le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, à l'intérieur de la participation de l'essai, nous devons pouvoir déterminer comme des modalités qui sont comme le vestige de la très sainte Trinité, des trois. C'est pour ça que je peux dire que du côté de la création, je prends le point de vue de la cause, hein, on y parle de la cause de la créature, c'est Dieu, l'ipsum esse subsistans. Mais comme l'ipsum esse subsistans, Dieu, est en même temps trois, je peux dire que la cause de la création et de tout ce que représente la communication de l'essai, c'est bien les processions divines. Ce n'est pas un langage formel, on dira que c'est un langage matériel. Vous comprenez comment je dis. Mais le matérialitaire ici est plus formel que le formel philosophique. C'est ça qui est très curieux. Et c'est important de comprendre ça. Vous faites la même chose comme distinction au niveau de la très sainte Trinité, au niveau de la grâce. Au niveau de la grâce, vous dites que vous pouvez regarder la grâce formellement, et pour la regarder matérialitaire. Formellement, la grâce, c'est la finalité, et la grâce me lie à la très sainte Trinité. Et matérialitaire, la grâce, un vitus entitatif. Donc, il y a le double langage, vous voyez, c'est ça qui est très difficile à saisir, il y a ce double langage. Donc, on peut dire que les processions divines les processions divines sont cause de la création. Quand je dis que les processions divines sont cause de la création, je n'ai plus un langage formel. La ratio formaliste de la création, et saint Thomas l'a dit, c'est laisser participer. Or, laisser participer fait qu'elle immédiatement elle trouve ses subsistances, donc à l'unité de Dieu. Mais comme de fait l'ipsum et ses subsistances, c'est les trois personnes divines, il y a nécessairement, ça ne peut pas être autrement, il y a nécessairement l'ipsum et ses subsistances, cause première, cause formelle, on peut dire, puisque l'ipsum et ses subsistances implique les processions, que les processions sont cause. Vous voyez comment le jeu qui est. C'est assez beau du reste de voir cette souplesse, hein, ce passage. Mais d'une façon plus précise, je dirais que les processions sont rationnesses. Elles sont rationnesses pourquoi ? Parce qu'elles me permettent de détecter dans la créature une relation à l'égard des trois personnes divines. Et je dis rationnesse parce que c'est l'intelligence du théologien qui sait que le créateur est trois, qui va essayer de saisir une relation qui va expliciter une relation entre l'unité et la Trinité. Non pas en Dieu, mais dans la créature. Et c'est à ce point de vue-là, je peux dire que les processions deviennent rationnesses des créatures, de la création, c'est-à-dire. Rationnesses parce qu'elles donnent une possibilité d'avoir un nouveau regard. Et un regard qui n'est plus au niveau de la simplicité de Dieu, mais qui est au niveau de la fécondité de Dieu. Au fond, c'est l'explicitation de ce mode. Je crois que c'est ça que ça veut dire. J'explicite, vous voyez, ce mode présent qui est implicite dans la créature. Formellement, il est implicite, mais il est en acte. Ça ne peut pas être autrement. Il est en acte. Et parce qu'il est en acte, cause. Mais il est implicite et il demande d'être explicité. Il est explicité par les appropriations. Ben, comment j'explique, hein? On est devant quelque chose qui est très difficile parce que vous n'avez pas l'expérience, premièrement, mais vous saisissez que ça ne peut pas être autrement. Nécessairement, le mystère de la très sainte Trinité a son impact, si j'ose dire, son influence sur la créature. Comment préciser cette influence de la très sainte Trinité sur la création ? C'est de dire que les processions divines ne sont pas étrangères à la création, elles sont donc cause. Autrement, vous diriez qu'elles sont étrangères. Elles n'ont rien à voir. Non, elles sont causes. Mais causes, non pas de la ratio formalis, mais causes de la réalité. Et d'autre part, j'essaie d'expliciter alors ce que représente cette causalité fondamentale en voyant comment toute créature, du fait même qu'elle est causée par les trois, et plus la créature sera parfaite, et en définitive c'est l'homme, parce que c'est à cause de l'homme que l'appropriation se fait de façon parfaite, à cause de l'esprit, de la personne humaine, je verrai comment dans l'homme, je peux découvrir des appropriations, c'est-à-dire des propriétés, qui ne sont pas au sens strict des propriétés, parce que si elles étaient des propriétés, c'est un attachement direct, alors on dit appropriation du mystère de la très sainte Trinité. Vous allez compléter ça avec l'article suivant, je crois, qui va nous aider à mieux saisir. Mais je crois que c'est juste, et c'est assez juste de dire, voyez, cause au point de vue de la création, rationes, c'est le point de vue de l'intelligibilité. Donc la cause fonde l'intelligibilité. Prenez d'une autre manière, si vous voulez, parce qu'il s'agit toujours d'essayer d'entrer dans ce mystère. Dieu créant. Il crée en tant que Trinité. Ou plus exactement, il crée en tant qu'un, mais il est Trinité. Fait d'être trois. Par le fait même, la raison formelle de l'effet créé nous fait appel direct à la simplicité de Dieu, donc à l'unité. Mais comme il est trois en créant, il est trois en acte, nécessairement, dans les faits, je peux expliciter une relation particulière à l'égard du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Et c'est cette explicitation qui me fait découvrir la rationesse. Et qui me fait découvrir comment les processions divines sont rationesse de l'appropriation. Rationesse, non, sont les rationesses de la création. Parce que ces rationesses, c'est justement l'appropriation. Il y a des difficultés, je comprends. Contemplez et vous verrez mieux. Là, on voit la limite, vous voyez, de la théologie scientifique. Hein. Ça, c'est la limite. Pour moi, c'est toujours ce problème-là qui est la limite. Les liens entre la création et la Trinité. Les liens entre ratio entis et ratio boni. C'est ça. C'est les liens entre les deux. Alors, on distingue sans séparer. Et on maintient les distinctions pour ne pas tomber dans la confusion. Donc, deux problèmes, deux erreurs à éviter, la confusion et la non-distinction. Non, la confusion et la séparation. La confusion consiste à ne pas accepter la distinction et la séparation à faire de la distinction une séparation. Le mystère de l'unité de Dieu n'est pas séparé de la Trinité. Le mystère de l'unité de Dieu ne doit pas se confondre avec la très sainte Trinité. Oui. Et au fond, c'est ça qu'il faut essayer de saisir dans l'œuvre créatrice de Dieu. Et saisir à l'intérieur de cette œuvre créatrice de Dieu quelque chose qui nous aide à nous approcher de la très sainte Trinité. Alors, article 7. Trouve-t-on nécessairement dans les créatures un vestige de la Trinité ? D'après saint Augustin, un vestige de la Trinité apparaît dans la création. Tout effet représente en quelque manière sa cause. Tout effet représente aliqualitaire suam causam, sed diversimode. Donc tout effet représente d'une certaine manière sa cause, mais de diverses manières. Car tel effet représente de sa cause uniquement la causalité, non la forme. Representat, suam causalitatem. Vous voyez, nous retrouvons les choses. Hein. Car tel effet représente de sa cause uniquement la causalité, non la forme. Ainsi, la fumée évoque le feu. Signe. Une représentation de ce genre est appelée un vestige. Et un vestige montre bien que quelqu'un a passé par là, mais ne révèle pas sa nature. Tel autre effet, au contraire, représente sa cause en offrant une similitude de sa forme, comme le feu engendre le feu générateur, ou la statue de Mercure. Il y a alors imago, image. Or, les processions des divines personnes ont rapport aux actes d'intelligence et de volonté, comme on le disait ci-dessus. Le Fils procède comme verbe intellectuel. L'Esprit Saint procède comme amour de la volonté. En conséquence, chez les créatures raisonnables, douées d'intelligence et de volonté, on trouvera une représentation de la Trinité par manière d'image. Parce qu'on y rencontre un vestige conçu et un amour qui procède. Mais en toute créature, il y a une figuration de la Trinité sous forme de vestige. En toute créature, il y a une figuration de la Trinité sous forme de vestige. Car en toute est quelque chose qu'il faut nécessairement rapporter comme à sa cause aux diverses personnes divines. C'est ce qu'on a dit, parce que les processions sont causes. Donc nécessairement, il y a un lien. Mais un lien qui est extrêmement ténu et qui se voit à travers le point de vue de la communication de l'essai. Participer. En effet, toute créature subsiste en son être, à sa forme qu'il arrange dans une espèce et en rapport à quelque autre chose. Vous voyez, il y a trois dimensions de toute créature. Toute créature subsiste dans son être, à sa forme qu'il range dans son espèce, donc sa nature, et en rapport à quelque autre chose. En tant qu'elle est une certaine substance créée, elle représente sa cause, son principe. Et par là, elle rappelle la personne du Père, qui est un principe sans principe. Selon qu'elle a une certaine forme, une certaine espèce, elle représente le Verbe. Car la forme de l'œuvre vient d'une conception de l'œuvre. Enfin, parce qu'elle est ordonnée et orientée, elle représente le Saint-Esprit, envisagé comme amour. Car l'orientation d'un effet vers quelque autre chose est le fait d'une volonté qui crée. C'est ce qu'affirme Saint-Augustin quand il dit qu'un vestige de la Trinité se retrouve en chaque créature selon qu'elle est quelque chose, qu'elle est formée d'une certaine espèce et qu'elle tient un certain ordre. À cela se ramènent aussi ces trois termes du livre de la sagesse, le nombre, le poids et la mesure. Car la mesure se rapporte à la substance d'une chose limitée. Car la mesure se rapporte à la substance d'une chose limitée, à ses propres éléments ou principes. Le nombre se rapporte à l'espèce. Le poids se rapporte à l'ordre. Ah, c'est une chose très très classique de Saint-Augustin que Saint-Thomas a assumé de façon très étonnante. C'est très curieux. Ici, c'est un des points les plus étonnants de la rencontre du néoplatonisme augustinien et de l'aristotélisme. Alors, c'est pas de l'éclectisme, mais c'est quelque chose de très très spécial. Hein. C'est évident. Et en même temps de l'écriture. Hein. Alors ça, pour les exégètes, c'est quelque chose de carabiné. Non, c'est pas comme d'avoir nombre, poids et mesure. Alors, voyez, à cela se ramènent aussi ces trois thèmes du livre de la sagesse, nombre, poids et mesure, car la mesure se rapporte à la substance d'une chose limitée à ses propres éléments ou principes. Qui l'aurait cru ? Et la substance apparaît ici. Je ne sais pas si le Saint-Esprit l'avait prévu, n'est-ce pas ? Mais ça, c'est la mesure. Se rapporte à la substance d'une chose limitée. C'est la substance limitée. Donc, c'est la substance dans une vision de sagesse. Hein ? Comprenons bien. Ce n'est pas la substance principe, c'est bien évident. C'est la substance limitée, donc la substance dans une vision de sagesse. Donc c'est la mesure se rapporte à la substance d'une chose limitée, à ses propres éléments ou principes. Le nombre se rapporte à l'espèce. Enfin, toujours. Le nombre, c'est comme les espèces sont comme le nombre. C'est depuis Pythagore en passant par Aristote. Et le poids par rapport à un ordre. Le poids, c'est l'amour. Hein. Mon amour est un poids. On le sait. À cela encore se réfèrent ces trois vocables employés par saint Augustin, le mode, l'espèce et l'ordre. Et en outre, ceux qu'il y substitue quand il distingue dans les choses, ceux qui les constituent, ceux qui les distinguent, ce par quoi elles conviennent. Car chaque chose est constituée par sa substance. Donc ce qui constitue. Le mode qui appelle toujours à la mesure. Le mode, l'espèce et l'ordre. On retrouve l'espèce et l'ordre. C'est le mot douce qui change. Donc, ce qui constitue. Ce qui constitue, c'est le point de vue de la substance. Car chaque chose est constituée par sa substance. Et car chaque chose est constituée par sa substance et déterminée par sa forme. Et convient par son ordre. Facilement, on ramène à ces termes tout ce que disent à cet égard les divers penseurs.
Oui. Écriture, révélation, saint Thomas, Augustin.
Très très cru, ça, voyez, comme synthèse des trois aspects. Et alors, vous voyez que ça, c'est d'essayer de comprendre le vestige qui existe dans toutes les créatures. Dans toutes les créatures, il y a un vestige de la très sainte Trinité. Et ce vestige de la très sainte Trinité, il nous est révélé dans l'Écriture. Tout ce que Dieu fait implique nom, poids, mesure.
C'est la mesure de Père, l'ordre de l'Esprit Saint et la forme de Fils.
C'est quelque chose, hein, à découvrir ça. C'est la grande vision, une grande vision trinitaire du monde. Cette grande vision trinitaire du monde qui fait que dans toutes les réalités, il y a vestige. Alors il a défini ce que c'était que le vestige. Hein. Le vestige, ce n'est pas une similitude formelle, mais c'est à l'intérieur de la causalité efficiente une relation aux trois personnes divines. Je reprends là, mais en toute créature, il y a une figuration de la très sainte Trinité sous forme de vestige. Car en tout est quelque chose qu'il faut nécessairement rapporter comme à sa cause aux diverses personnes. Comme à sa cause, vous voyez, cet article-là dépend directement du précédent. En effet, toute créature subsiste en son être, à sa forme, qui la range dans une espèce, et a un rapport à quelque autre chose, une relation à quelque chose d'autre, un ordre. En tant qu'elle est une certaine substance créée, elle représente sa cause, son principe, et par là, elle rappelle la personne du Père, qui est un principe sans principe. Selon qu'à une certaine forme, une certaine espèce, elle représente le Verbe, car la forme de l'œuvre vient d'une conception de l'ouvrier. Donc de l'idée, l'idéa. Enfin, parce qu'elle est ordonnée et orientée, elle représente le Saint-Esprit. Elle représente le Saint-Esprit envisagé comme amour.
C'est le point de vue de l'amour, hein, ici, le poids. L'amour est à la fois ordre et poids.
Et les deux en même temps. Et il est le vestige de l'Esprit Saint, envisagé comme amour, car l'orientation d'un être vers quelque autre chose est le fait d'une volonté qui crée. C'est ce qu'affirme saint Augustin quand il dit qu'un vestige de la Trinité se trouve en chaque créature, selon qu'elle est quelque chose, qu'elle est
formée d'une certaine espèce et qu'elle tient un certain ordre. À cela se ramène. Ça, il faut le méditer. Ça vaut la peine, c'est quelque chose de très étonnant, comme vision de synthèse. Vous voyez, comme vision de synthèse. Toute la grande orientation pythagoricienne, toute la grande orientation néoplatonicienne et la précision aristotélicienne. Les deux sont là, présents. Et ceci dans un regard de sagesse, et ce regard de sagesse est soutenu par la parole de l'Écriture, nombre, poids, mesure. Et ceci permet, comme un regard profond, un regard de sagesse trinitaire, c'est pas une sagesse seulement au niveau de l'essai, mais une sagesse trinitaire à l'égard de toutes les réalités. Toutes les réalités sont imprégnées du mystère de la très sainte Trinité. Et par le fait même, il y a le vestige trinitaire présent dans chaque réalité. En comprenant bien, vestige, hein, la définition du vestige doit être très très présente, hein, parce que ça c'est très très important. Tel effet représente sa cause uniquement, représente de sa cause uniquement la causalité, non la forme. Donc c'est bien le point de vue de la causalité, laisser participer. Laisser participer, c'est vraiment le point de vue de la cause première efficiente. C'est par rapport à cet essai participé, c'est dans cet essai participé que nous découvrons, dans la lumière de la très sainte Trinité, à l'égard de toutes les réalités, le vestige trinitaire, la marque. Parce qu'au fond, c'est ça le vestige, la marque. Une représentation de ce genre est appelée un vestige. Et un vestige montre bien que quelqu'un a passé par là, celui qui a passé par là, c'est la très sainte Trinité, mais ne révèle pas sa nature. Donc je ne peux pas, uniquement en regardant le vestige, découvrir la très sainte Trinité. La très sainte Trinité reste cachée. Mais si la très sainte Trinité m'est révélée, je peux découvrir à travers toutes les réalités le vestige. Donc il faut bien se rappeler la différence entre vestige et image. Ça c'est une grande chose, c'est une grande vision augustinienne. Et une grande vision qui est très importante. Parce que, vous voyez, l'imago sera l'homme. Et en dehors de l'homme, c'est le vestige. Toute la différence qui existe entre l'homme et le vestige. Et l'imago implique donc une similitude au niveau de la forme. Alors voyons maintenant les objections. Une telle pensée semble s'opposer à nos déterminations précédentes. En effet, par ces vestiges, toute réalité doit pouvoir se reconnaître. Or, à partir des créatures, on ne peut pas aboutir à la Trinité, ainsi qu'on l'a dit plus haut. Oui, ça, c'est la grosse difficulté. Si vous dites qu'il y a vestiges, Vous pouvez donc découvrir la très sainte Trinité à partir de n'importe quelle réalité. Vous pouvez découvrir la Trinité plotinienne. Vous voyez, la Trinité plotinienne, alors mettez là la Trinité plotinienne, là, le point de vue du logos, l'intelligence, et le point de vue de l'âme. Bien bas, hein, parce que là, on n'est plus d'accord. Hein. Mais c'est intéressant de voir la Trinité plotinienne dans la perspective de ce vestige. Et alors, la petite confusion dans Plotin entre vestige et image. Et c'est ça qui explique comment on aboutit à la Trinité plotinienne. C'est la confusion entre vestige et image. Donc la confusion entre causalité efficiente et causalité formelle. Et c'est vrai que dans le néoplatonisme, le point de vue de la cause efficiente et de la cause formelle sont assez distincts. Alors, réponse de saint Thomas. Le premier argument se résout sans peine si l'on se souvient que les vestiges de la Trinité dont nous parlons se conçoivent comme des effets appropriés après coup aux diverses personnes. Donc, c'est ça qui est important. Vestigia secundum appropriata. Vous retrouvez les appropriations. Et ça, c'est intéressant. Parce que ça vous aide à mieux comprendre. Le point de vue de la causalité et la rationalité. Hein. Et souligner d'une façon, dans une vision de sagesse. De cette manière, en présupposant la foi, rien n'empêche qu'on remonte des créatures à la trinité des personnes, ainsi qu'on l'a expliqué plus haut. Qu'on remonte des créatures à la trinité des personnes. Alors, seconde objection. En outre, tout ce qui est dans la créature est créé. Si donc un vestige de la Trinité se rencontre en une créature, en raison de telle ou telle de ses propriétés, si tout ce qui est créé porte un vestige de la Trinité, il faudra qu'en chacune des propriétés susdites se trouve encore un vestige de la Trinité et ainsi sans terme. Alors, réponse. Rien n'impose non plus à la marche à l'infini qu'on objecte. Mais ça, c'est la glose. Hein. Car on appelle créature, à proprement parler, la chose qui subsiste et en laquelle nous trouvons les trois susdits caractères. Il n'en est nullement nécessaire qu'en chacun des éléments, on trouve de la chose ces trois mêmes caractères. On retrouve. Il n'est nullement nécessaire qu'en chacun des éléments ou attributs de la chose, ces trois mêmes caractères se retrouvent. Mais c'est à cause d'eux qu'on voit dans la chose subsistante un vestige de la très sainte Trinité. C'est pour montrer que de fait, on peut le découvrir qu'après coup, on ne peut pas le découvrir directement. Alors, dernière objection, au surplus. Un effet ne représente que sa cause. Or, la causalité divine à l'égard des créatures appartient à la nature commune, non aux relations par lesquelles les personnes se distinguent ou se nombrent. Donc, dans la créature doit se trouver un vestige non de la Trinité, mais uniquement de l'unité des sens. Réponse. De même, ce qu'on dit du rapport de causalité ne nous contredit point, car d'une certaine manière, les processions même des personnes divines sont une cause et une raison de la création. Quod etiam processiones personarum sunt causa et ratio creationis aliquomodo. Donc il y tient. Hein. Causa et ratio. Causa et ratio. Donc, l'explicitation que l'intelligence fait. Oui.
Oui.
Alors là, c'est la révélation. Alors il faudrait que le Père nous dise, voilà le rôle que j'ai joué dans la création. Ça, nous le verrons dans la vision béatifique. Votre désir ne sera réalisé que dans la vision béatifique. Moi, je ne peux pas le dire. Il faudrait que le Père nous dise, dans la création, voilà le rôle que j'ai joué. Et moi, fils, alors, il y a bien ça, en ce sens que on dit le Père Tout-Puissant, le Créateur. On parle du verbe en qui toutes choses ont été faites. Et on parle du souffle. Oui. Mais on ne dit pas quelque chose de particulier. Donc je ne peux le faire que dans la remontée. Pas possible d'être autrement. Dans la descente, il faudrait qu'on ait les secrets du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Je repose, toute ma théologie repose sur la révélation. Et sur le regard que j'ai de la réalité. Oui.
s'il y avait une révélation particulière du conseil de Dieu, n'est-ce pas, c'est le conseil du Créateur, le sixième jour, hein, faisons l'homme à notre image. Donc il y a eu un conseil. Pour tout le reste, il n'y a pas besoin de conseil. C'est très beau, hein, parce que le conseil trinitaire, c'est pour l'imago. Quand il s'agit du vestige, non. Vous voyez, le sixième jour. Avant le sixième jour, c'est le vestige. Sixième jour, c'est l'imago. Et là, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc, il y en a quelque chose qui nous est révélé comme un conseil divin pour que, de fait, dans la créature rationnelle, il y ait un lien plus immédiat, selon la forme, comme dit saint Thomas, avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et c'est pour ça qu'on pourra retrouver dans l'imago, et c'est tout le grand traité de la très sainte Trinité de saint Augustin, on pourra retrouver dans l'imago des raisons analogiques de la très sainte Trinité. Tout ça se tient, hein, c'est très net, et c'est très fort de voir bien le lien entre le mystère de la création et le mystère de la très sainte Trinité. Vous voyez, ça fait comprendre pourquoi saint Thomas a dit d'abord le traité de Dieu 1, puis le Dieu 3.